des frères Van Eyck sont de l'art, absolument et inconditionnellement. Mais c'est une évidence trompeuse qui procède en fait du fait qu'on ignore spontanément la médiation des catégories mentales auxquelles je faisais référence. Précisément, l'art du XXe siècle permet de faire apparaître la présence de ces catégories mentales. J'emprunte cet exemple à un passage d'un ouvrage du philosophe Arthur Danteau, intitulé « La transfiguration du banal ». Dans ce passage, Danteau considère le cas très particulier d'objets qui sont des objets artistiques au XXe siècle, mais qui ont une propriété étrange, c'est-à-dire celle d'être perceptiblement indiscernables de leur équivalent réel. Je dis quels sont ces objets tout de suite. Ça peut être par exemple un urinoir et Fontaine, c'est-à-dire l'urinoir baptisé Fontaine, exposé par Duchamp. Ou bien ça peut être un lit métallique et le même lit métallique, intitulé cette fois-ci Bed, et exposé par Rauschenberg. Ou bien ça peut être encore ces boîtes de tampons à récurer de la marque Brio, stockées dans l'entrepôt d'un magasin et, à côté de cela, empilé dans une galerie de New York par Andy Warhol. Dans tous ces cas, la chose troublante est qu'on a affaire à des objets qui sont à la fois les mêmes et totalement différents. Dans l'entrepôt du supermarché, les boîtes de Brio sont de la marchandise. Dans le cadre de la galerie, c'est de l'art. La conclusion de Danteau, c'est que pour voir Fontaine ou Bed ou les Brio Boxes comme des œuvres d'art et non pas comme des objets utilitaires, eh bien, il faut avoir fait sienne certaines conventions, certaines idées sur ce que l'art est, sur ce qu'il peut être, voire sur ce qu'il doit être. Et inversement, leur refuser le label art, comme cela s'est produit à maintes reprises au XXe siècle, c'est encore se référer de manière plus ou moins consciente à une autre manière de penser ce que l'art est, ce que l'art peut être ou ce que l'art doit être. De ce point de vue, le XXe siècle, dont il sera question dans ce coffret, est particulièrement intéressant. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'évolution des pratiques artistiques a fait que les œuvres produites pendant ce siècle n'ont plus correspondu, en tout cas pour une bonne partie d'entre elles, ou n'ont que très imparfaitement correspondu au paradigme artistique qui s'était progressivement constitué en Europe, en gros, entre la Renaissance et le XIXe siècle. Je donne simplement ici quelques exemples. 100 000 milliards de poèmes de Queneau, constitués, comme on le sait, de poèmes dont chaque vers est découpé et peut-être assemblé avec ce qui suit selon des combinaisons multiples et infiniment variées. Eh bien, cet ouvrage contredit l'idée de recueil poétique comme totalité achevée. L'idée de totalité achevée, c'était une manière de définir l'œuvre. Ou bien les ready-made de Duchamp, qui exposant des objets déjà faits, comme leur nom le dit, contredisent l'idée même d'artefactéité, c'est-à-dire l'idée qu'une œuvre d'art, c'est d'abord quelque chose qui est fait, qui est fabriqué, mais qui n'existait pas auparavant. Ou bien, troisième exemple, lorsque John Cage, dans ses compositions, fait intervenir le hasard, eh bien, cela contredit l'idée de création pensée comme libre choix précédé par la pensée d'un objectif, d'une fin. Les assemblages de Kurt Schwitters ou les combined paintings de Rauschenberg, les performances, les happenings, les pratiques absolument singulières que l'on connaît au cours du XXe siècle et tout particulièrement à sa fin, ont véritablement bouleversé les sous-catégorisations de l'art, les catégories artistiques et les sous-catégories artistiques qui, jusque-là, étaient en nombre limité. Donc, de tout ceci découle le principe de cette histoire philosophique des arts dont ce coffret consacré